Voilà, merci pour cette introduction. Et c'est vrai que je vais reciter un verset que tu as lu et qui a été cité dans une prière. C'est « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est droit, et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Et je trouve que c'est un beau verset d'introduction par rapport à la prédication qui sera sur l'épître de Tite. Donc la lettre que Paul a écrite à son ami Tite, qui est en mission, enfin qui est dans l'église de Crète. Et je vous propose de commencer par lire Tite 3, à partir du verset 3. Donc on parcourra un peu l'ensemble de l'épître, mais pour introduction, je vous invite à lire Tite 3, à partir du verset 3. « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » Cette lettre que Paul a écrite à Tite parle, dans ses premiers chapitres, beaucoup d'organisation d'église, comment nommer des anciens. Parle aussi de règles de vie pour les croyants. Donc on a peut-être l'impression, quand on lit les premiers chapitres, ça parle un peu des œuvres, enfin de ce qu'on doit être, il y a des règles. Mais ce qui ressort quand on lit l'ensemble du texte, c'est finalement la grâce, l'amour de Dieu qui permet de faire tout cela. Alors nous allons voir un peu cet ensemble. Alors tout d'abord, concernant l'église de Crète, pardon, je pense à une anecdote, voilà, c'est l'église de Philippe, on dit les Philippiens, l'église de Thessalonique, on dit les Thessaloniciens, donc l'église de Crète, on dit les chrétiens, voilà, non, donc, et effectivement, il y avait des chrétiens dans cette église, mais... Voilà, c'est l'église, ils sont crétois plutôt. Et donc, c'était cette lettre que Paul a écrite à Tite, il aurait pu l'appeler aussi lettre à l'église de Crète. Mais voilà, parce qu'elle concerne vraiment, elle est orientée sur cette église. Ce n'est pas seulement des consignes à Tite, comme ça a pu être donné à Timothée, à qui il donne des consignes aussi sur sa manière de vivre le ministère. Là, c'est vraiment destiné à l'église. Alors, l'église de Crète... Il y a peut-être apparemment moins de problèmes que dans l'église de Corinthe, par exemple, où Paul devait être quand même un peu vigoureux dans ses propos, dans la manière de les rappeler à l'ordre. Mais il y avait quand même un problème. C'est qu'il y avait beaucoup de personnes que Paul qualifie de rebelles, vains discoureurs et séducteurs. Des gens qui apportaient des faux enseignements. Et il dit aussi que c'était principalement des circoncis. Et je pense qu'il fait référence à des juifs qui se sont ensuite convertis, mais peut-être aussi à des nouveaux croyants qui, pensant bien faire ou ayant été mal enseignés, se disaient qu'il fallait pratiquer la loi de Moïse et être circoncis. Et on voit dans les Actes et dans Galates qu'il y a eu un désaccord entre Paul et Pierre à ce sujet, et que ce qui en est résulté, c'est que quand on devient croyants, nous ne sommes plus soumis à la loi. Et donc, cependant, dans cette église de Crète, il y avait encore des gens qui enseignaient de mauvaises choses et qui induisaient en erreur sur ce sujet ou sur d'autres. Il parle de commandements d'hommes qui détournent de la vérité. Donc, dans ce contexte, il était nécessaire d'organiser l'église, de rappeler les règles essentielles, de rappeler aussi la grâce, et de nommer des responsables qui soient fidèles, qui connaissent le bon enseignement et qui soient de bons exemples. Alors Paul a confié cette mission à Tite. Donc Tite, c'est sans doute, donc c'est un grec à la base, et faisait sans doute partie des premiers convertis. Tite, c'est un homme que Paul n'a pas voulu circoncire. Et c'est l'exemple qui est pris dans la Bible pour montrer qu'on n'avait pas besoin de circoncire les nouveaux croyants parce qu'on était affranchi de la loi de Moïse. Donc c'est intéressant que ce soit cette personne qui a été désignée pour aller voir les Crétois. Tite, c'est aussi un homme de confiance de Paul. Paul qui l'a emmené plusieurs fois en voyage avec lui, en voyage missionnaire. Et Paul l'avait aussi envoyé à Corinthe pour accompagner ses lettres. Parce que Paul savait que dans ses lettres, il avait des propos un peu durs et il se disait il faut quelqu'un pour accompagner. Et Tite faisait partie de ces personnes qui ont accompagné les lettres. Il a aussi été chargé de collecter l'argent pour les chrétiens de Jérusalem. Et il a ensuite été envoyé en Dalmatie pour fonder une église. Donc c'est vraiment quelqu'un qui avait un ministère important, imposant, j'allais dire. Et donc, ici, Tite est chargé d'organiser l'église de Crète. L'organisation, la nomination de responsables, fait pleinement partie du développement d'une église. Alors, on est bien d'accord, il y a avant tout l'annonce de l'évangile, il y a les conversions, peut-être les baptêmes, mais l'organisation joue aussi un rôle dans la croissance de l'assemblée. Alors, actuellement, au sein de notre union d'église, on a un projet à Pontarlier. Effectivement, il y a une équipe d'implantation qui est là-bas, il y a des personnes qui les ont rejoints pour le culte. Parfois, ils sont une trentaine, une quarantaine au culte, donc c'est vraiment super. Mais c'est assez paradoxal parce qu'il n'y a pas encore d'église. Pour l'instant, c'est qu'une équipe d'implantation. Ils n'ont pas le titre d'église, mais en même temps, il y a des personnes de l'extérieur qui viennent. Ils aimeraient, parce que l'équipe se réduit, donner des responsabilités à d'autres. Mais comment savoir qui peut enseigner ? Qui peut mener la louange, qui peut assurer l'école du dimanche, qui peut accompagner le groupe de jeunes. Et puis, donc eux, ils ne se sont pas posés la question, mais à Bellegarde, par exemple, ils se sont posés la question, peut-on prendre la scène s'il n'y a pas d'anciens officiellement nommés ? Et quel lien avec les autorités quand finalement on n'est qu'une association culturelle, on n'est pas cultuelle, donc... Et en même temps, on se réunit déjà dans un temple, et en même temps, on fait déjà des cultes. Et donc, ces ambiguïtés, parfois, ont besoin d'être levées. Et donc, il y a une nécessité d'organisation, de nommer des responsables. Et ça, ça n'a rien de nouveau. Donc, Paul a donné dans toutes ses lettres régulièrement, il donne des conseils aux églises pour se structurer, pour être sûr d'avoir un enseignement solide aussi, pour discerner les bonnes personnes au bon poste. Donc c'est ce que fait Paul ici, et il demande que Tite établisse des anciens dans chaque ville de Crète, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni à donner au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, sain, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Ça met la barre haut, hein. Je pense que beaucoup d'anciens responsables actuels diraient non, je peux pas y être. Et voilà, c'est à ce à quoi on doit aspirer et les critères qu'on doit avoir en tête quand on cherche des responsables, en sachant que personne ne réunira tous ces critères. Mais Paul ne donne pas des consignes seulement pour les responsables, il en donne aussi pour tous les chrétiens, pour tous les croyants. Il écrit aux vieillards, enfin il dit qu'il faut dire aux vieillards d'être sobre, honnête, modéré, saint dans la foi, dans l'amour et dans la patience. Il parle pour les femmes âgées, qui doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin. Elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Il y a aussi des paroles pour les jeunes gens, et Tite est incité à se montrer lui-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Et par ce modèle, d'être un modèle pour les jeunes gens. Et enfin, il y a même une parole pour les serviteurs, qui sont appelés à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honneur en tout à la doctrine de Dieu notre Sauveur. Il ne suffit pas que Paul ait écrit ça pour que tous le pratiquent. Il y a beaucoup de choses écrites qu'on ne pratique pas, mais là ce qui est intéressant, c'est qu'il demande qu'il y ait des exemples. Tite doit être l'exemple pour les jeunes gens. Les femmes âgées doivent être des exemples pour les jeunes femmes. Le comportement des serviteurs doit faire honneur à la doctrine de Dieu. Être des exemples. Mais quand on lit tout ça, ça peut mettre un peu la pression. Être vu comme du légalisme. Je dois faire, je ne dois pas faire, il faut que je sois un exemple. C'est dur à porter. Mais le verset 11 donne la clé. Paul ne s'est pas contenté d'énumérer ce que l'on doit être, mais il donne la source de tout. Il met « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Ou dans la version en français courant, « Oui, Dieu a montré son amour qui sauve tous les êtres humains. Cet amour nous apprend à rejeter ce qui est mauvais et les désirs de ce monde. Ainsi, nous pouvons mener sur cette terre une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu, en attendant le merveilleux jour que nous espérons. » On parlait d'être des exemples. Mais l'exemple suprême, c'est Jésus. C'est son amour que nous devons imiter, qui doit nous inspirer. Et c'est de cet amour que découle tout ce qui a été demandé. Si on aime, peut-on être malhonnête? Si on aime, peut-on être violent? Si on aime, peut-on tromper son conjoint? Si on aime, peut-on être médisant? Ne chercherons-nous pas plutôt le bien de ceux qui nous entourent? Oui, l'amour. Dieu nous a aimés. Alors aimons et obéissons. Alors nous en sommes sans doute convaincus que nous devons aimer, que Dieu nous a aimés, que nous devons aimer. Nous le rappelons peut-être aux autres. Non, tu dois aimer, toi. Rappelle-toi ce qu'il faut faire. Parfois, nous sommes choqués de voir le comportement de certains chrétiens. Tu dis, oh, lui, il ne suit pas trop ce qui est écrit. Hein. Ou, ouais, il n'aime pas tout le monde. Parfois, on veut imposer ceci aussi à des non-chrétiens. On aimerait qu'ils suivent notre morale, mais après tout, ils n'ont pas choisi cette voie. Donc. Mais on aimerait quand même que ces principes soient suivis. Nous souhaitons que les règles morales soient suivies par tous, mais nous avons l'impression que notre monde sombre dans l'immoralité. Nous avons un rôle d'enseigner, de montrer l'exemple, et même, quand on lit le verset 15, donc le verset 15 s'adresse toujours à Tite, dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. Plus loin que l'exemple, nous devons dire les choses, enfin Tite est invité à dire les choses clairement, ce qu'est la vérité, à reprendre, à dire attention, toi tu te trompes, et le tout avec une pleine autorité. Ça demande un responsable solide, hein, qui est droit dans ses baskets, comme on dit, qui vraiment sait ce qu'il dit, avec l'autorité légitime. Donc c'est là, il s'adresse à Tite, hein, qui est quand même on a vu un chrétien, quelqu'un d'engagé avec un ministère reconnu. Nous sommes peut-être à titre personnel invités à dire les choses, mais avant de reprendre violemment avec pleine autorité, nous sommes aussi invités à nous interroger nous-mêmes. Ne pas oublier que dans tout cela, il y a l'amour, la grâce avant tout. Alors ne soyons pas trop durs en jugeant les autres. Rappelons-nous d'où l'on vient. Et je vais reprendre le verset 3 lu tout à l'heure. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. On n'était pas mieux, hein ? On était peut-être même pire. Hein ? Et ça, on dit autrefois, mais peut-être l'autrefois remonte à hier, hein ? Peut-être que hier, on a encore fait des choses méprisables, un peu insensées. On s'est peut-être égaré. On s'est peut-être fait avoir par une convoitise. Oui, rappelle-toi d'où tu viens. Nous savons qu'il n'y a pas un seul jour qui passe sans que nous chutions. Si nous sommes ici ce matin dans cette salle, si nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu, sauvés, que nous avons acquis la vie éternelle, ce n'est que don de Dieu. Reprenons les versets 4 à 7. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Je vais lire le même texte, mais dans une autre traduction, parce que parfois c'est bien d'entendre les choses avec différents mots. Mais Dieu, notre Sauveur, a montré sa bonté et son amour pour les êtres humains. Et il nous a sauvés, non pas à cause des actions justes que nous avons pu faire, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle. Cet Esprit Saint, Dieu l'a répandu généreusement sur nous, par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, puisque Dieu dans son amour nous rend justes, nous pourrons recevoir sa vie pour toujours, comme nous l'espérons. Le verset après dit, voilà une parole sûre, et je veux que tu insistes beaucoup là-dessus. Il n'a pas dit, je veux que tu insistes beaucoup sur les règles, même si c'est important, il veut qu'on insiste beaucoup sur la grâce. Alors rappelons-nous ce que nous étions, ce que nous sommes lorsque nous sommes livrés à nous-mêmes. Ayons pleinement conscience de ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a aimés avant que nous soyons aimables. Il a donné sa vie pour nous, souffrant, mourant, lui qui était juste, le juste. Il ne l'avait pas mérité, il n'avait pas mérité la mort, il était juste. Mais il l'a fait pour moi, même si moi je ne le mérite pas. J'ai entendu à la radio une chanson ce matin avec cette phrase « Se peut-il qu'on nous aime pour ce que nous sommes ?» Oui, Dieu nous a aimés pour ce que nous sommes, pas pour ce que nous faisons. C'est merveilleux. Il nous a donné le pouvoir d'être enfin de Dieu. Il nous a acquis la vie éternelle. Dans l'attente de son retour, il nous a donné le Saint-Esprit. Et c'est par cet esprit que nous pouvons aimer les autres et mettre en pratique les commandements du Christ. Quel que soit notre rôle dans l'Église, nous sommes appelés à être des modèles pour nos frères et sœurs chrétiens, mais aussi pour la société, afin qu'elle soit interpellée par notre comportement, qu'elle cherche la source de ce comportement et qu'elle trouve le Christ. Les responsables sont chargés d'enseigner cela, d'enseigner le vrai enseignement et de faire preuve d'autorité pour encourager et reprendre, tout en restant des modèles. Ceux qui jouissent d'un don ou d'une autorité particulière doivent contribuer à la construction de l'Église en discernant des responsables et en s'assurant que l'enseignement est fondé et droit. Et c'est ce que Paul faisait dans ses lettres. Il rappelait toujours quel était le vrai enseignement en disant « Ne vous laissez pas égarer par des gens qui veulent vous entraîner sur la mauvaise voie. » Alors oui, nous sommes des pécheurs perdus. Nous sommes sauvés par grâce. Et nous sommes serviteurs par l'Esprit Saint. Que la grâce et l'amour de Dieu soient avec vous.